Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'enfer n'est pas qu'une idée. L'enfer, ce n'est pas que les autres. C'est un pays qui se visite, qui s'arpente et qui est la première étape de la divine comédie de Dante. Elle est en route sur les chemins de la philosophie à la rencontre du diable. Bonjour Didier Ottaviani.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
C'est vous qui allez nous guider à travers l'enfer jusqu'au diable et au-delà, parce que le voyage continue après le diable. Vous êtes maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon, l'auteur d'un livre intitulé « La philosophie de la lumière chez Dante », ainsi que « Dante, l'esprit pèlerin », publié aux éditions Seuil, paru en poche, en point. Un petit livre très précis et parfait pour quiconque ne connaît pas encore la Divine Comédie, pour s'y initier. Vous souvenez-vous, Didier Ottaviani, de votre première lecture de la Divine Comédie ?
Alors oui, je me souviens très bien de cette première lecture, puisqu'en fait, c'était un cadre assez particulier. J'étais en classe préparatoire, déjà, un peu tardif donc, et on avait le mal comme thème. Et on nous avait conseillé éventuellement de lire l'enfer. Et ça a été une véritable découverte, effectivement, d'être confronté à ce texte qui était poétique et qui m'a passionné tout de suite et sur lequel j'ai décidé de commencer à travailler aussitôt après. Et voilà, ça a été...
Donc vous avez eu une espèce de choc parce que beaucoup de témoignages de personnes qui ont tenté de lire la Divine Comédie relatent l'inverse, c'est qu'il y a quand même une difficulté d'accès dû sans doute à la langue ou à la forme particulière.
Alors le texte est difficile parce que c'est un texte ancien, que ce soit même pour un italien puisque c'est du vieil italien. Alors j'ai la chance d'être corse et d'avoir une langue vernaculaire qui est du très vieil italien. Ouais. Donc finalement pour moi, eh bien la Divine Comédie était dans une langue un petit peu proche de ma langue natale. Et donc du coup, c'était un mode d'accès un petit peu plus facile. Et puis, il y avait ce côté poétique. Quand on est dans la philosophie, parfois, ce n'est pas toujours présenté de manière très poétique. Et donc Dante, c'était une ouverture à la fois sur la philosophie, mais écrite dans un langage littéraire. Et c'est ça qui m'a intéressé depuis, c'est-à-dire comment écrire la philosophie dans ce langage littéraire. Et Dante était un merveilleux exemple, justement, de cette pratique particulière de la philosophie dans l'écriture poétique, même s'il n'a pas écrit que des poèmes.
Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs façons de lire la Divine Comédie. L'une d'entre elles consiste à se laisser séduire uniquement par les images. C'est-à-dire que chaque chant, puisqu'elle se compose en trois livres, l'enfer, le purgatoire, le paradis, et chaque livre se divise en plusieurs chants. Chaque chant est le récit d'une épopée, d'une aventure particulière, de rencontres différentes, qui peuvent parfois évoquer certaines connaissances déjà acquises par l'évocation de certains noms. Parfois on ne comprend rien et c'est pas grave, tellement la beauté de la langue peut nous subjuguer.
Oui, et puis ça fait partie de ces grandes œuvres. Il y a toute une tradition que Dante reprend, qui est la tradition, par exemple, homérique de l'Odyssée, où on a aussi toute une série de péripéties. Et qu'on connaisse ou non toutes les histoires grecques et toute la culture grecque, on est quand même happé par le texte. Et puis, il est évidemment héritier de Virgile et de son Énéide, où là aussi, ce sont les aventures d'Énée. Et on a, d'ailleurs, on a dans les deux textes, une descente d'Ulysse aux enfers dans le premier, une descente d'Énée aux enfers dans le second. Et finalement, on retrouve dans ses œuvres, à la fois une culture très classique, mais en même temps toute une série de péripéties, une véritable épopée dans laquelle eh bien, on peut trouver une véritable histoire, même si on n'a pas accès forcément à tous les niveaux de lecture. C'est le principe d'une œuvre riche, c'est qu'on peut la lire justement à de multiples niveaux et qu'elle parle à tous les publics.
Le pari de cette série d'émissions sur la Divine Comédie en ce qui nous concerne sur les chemins de la philosophie, c'est de vous donner envie de lire ce texte, chers auditeurs, grâce à quelques textes, les plus beaux d'entre eux, que nous allons vous donner à entendre, et qui seront ensuite évidemment commentés et analysés par mes invités, donc aujourd'hui par vous, Didier Ottaviani. Voici le début de la Divine Comédie, l'enfer, la première personne, Dante s'aventure dans une forêt. Écoutez, Dante prête sa voix aujourd'hui, ou plutôt l'inverse, Dante donne sa voix à Georges Clesse qui interprète ce texte pour vous.
Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure, cette forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que la mort l'est à peine plus. Mais, pour parler du bien que j'y trouvais, je dirai des autres choses que j'y ai vues. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais, tant j'étais plein de sommeil en ce point où j'abandonnais la voie vraie. Mais quand je fus venu au pied d'une colline où finissait cette vallée qui m'avait pénétré le cœur de peur, je regardai en haut et je vis ses épaules vêtues déjà par les rayons de la planète qui mènent chacun droit par tout sentier. Alors, la peur se tint un peu tranquille, qui, dans le lac du cœur, m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine. Et comme celui qui, hors d'haleine, sortit de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde, ainsi mon âme, qui fuyait encore, se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie.
Ces quelques vers qui ouvrent la Divine Comédie de Dante sont-ils le récit d'un voyage ou d'un rêve ?
Alors, bonne question, puisque justement c'est un petit peu les deux aspects qui sont entremêlés. Alors, un voyage d'une part dans la mesure où il s'agit d'un voyage symbolique, d'un voyage métaphysique, d'une quête de soi, donc il y a toute une traversée, tout un chemin qui est parcouru, qui est finalement un chemin intérieur en réalité, c'est-à-dire que le voyage n'est pas forcément un voyage extérieur, c'est une descente plutôt en soi, à la fois dans sa noirceur, et essayer de remonter à quelque chose qui est finalement notre lumière. Donc s'il y a un voyage, il peut être aussi un voyage intérieur. Il y a un voyage esthétique, qui est un récit de voyage. Et il y a aussi ce rêve, c'est-à-dire ce sommeil dans lequel eh bien, on peut voir toute une série de... d'interprétations possibles, c'est-à-dire que ça peut n'être qu'un simple rêve, ça peut être une vision. Disons que les réponses sont multiples, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'une réponse, et je pense que fermer sur une seule réponse serait fermer un petit peu l'œuvre sur une seule signification, et je préférerais garder l'œuvre ouverte à ce niveau-là, et que chacun finalement fasse la propre lecture et son propre trajet.
Mais vous avez votre lecture, Didier Ottaviani.
Bien sûr.
Consiste à recevoir ce texte comme celui du récit d'une transformation de soi.
Oui, parce que je pense pour ma part que c'est véritablement ce qui, pour Dante, est peut-être le plus important, mais qui pour nous aussi est le plus important. La question qu'il faut se poser, c'est, à la limite, pourquoi lire Dante aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est un auteur qui peut nous apprendre quelque chose ? Il date d'une époque lointaine, on peut avoir l'impression que...
XIVe siècle,
donc on peut avoir l'impression qu'il n'a peut-être plus rien à nous dire. Et pourtant, il a tout à nous dire, justement parce que, eh bien, ce qu'il raconte, c'est un individu en quête de lui-même qui cherche, après avoir perdu sa voie droite, alors...
Sa voie droite, c'est ce qu'on trouve les premiers vers.
Hein. Voilà, cette voie droite qui est perdue, elle a reçu de multiples interprétations. Là aussi, est-ce qu'il est tombé dans le péché ? Est-ce que...
Est-ce que celui qui parle, c'est Dante lui-même ?
C'est Dante lui-même.
Pas un narrateur.
Alors, c'est ça qui est fondamental, justement, c'est que c'est une écriture du sujet, c'est-à-dire qu'on a un jeu qui prend la parole, ce qui est relativement nouveau et qui d'ailleurs fait partie des problèmes que Dante va avoir à affronter, dans la mesure où la rhétorique classique ne permet pas de parler à la première personne. On a le droit de parler à la première personne en rhétorique lorsqu'on est un grand auteur, si on est Jules César, si on est un personnage éminent qui peut devenir modèle, mais pas si on est un petit individu singulier. Donc, prendre la parole à la première personne est déjà un acte fort, puisque à ce moment-là, il s'agit de poser sa subjectivité et de construire ce qui va être une véritable métamorphose du sujet tout au long de la traversée de la Divine Comédie. Donc ce jeu, c'est Dante lui-même. Et c'est un Dante qui est incertain, justement, qui ne sait pas s'il peut faire véritablement ce voyage, s'il est capable d'effectuer cette traversée qui est peut-être trop pour lui.
Qui est Dante au moment où il écrit ce texte ?
Alors, au moment où il écrit, et alors il y a deux moments qui sont un petit peu en parallèle, puisque c'est censé être le voyage est censé se produire au milieu du chemin de sa vie.
C'est ce qu'on dit, au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure car la voie droite était perdue. Ce qui est très efficace avec ces premiers vers, c'est que tout le monde peut s'y identifier.
Voilà.
Pour le coup, on a tous été à un moment perdu dans le chemin qui devait être la voie droite et sans savoir où nous étions. Et on a l'impression qu'on est entouré par une forêt obscure. C'est une expérience tout à fait, finalement, ordinaire.
Finalement, assez ordinaire, oui. Alors Dante, c'est quelqu'un qui a une histoire assez compliquée, puisque c'est un jeune poète, tout d'abord. Alors il vient d'une famille, on s'est beaucoup posé de questions sur la famille de Dante. Est-ce qu'ils étaient riches ou pauvres, etc. Il semblait relativement, en tout cas, aisé. Assez pour permettre à un de leurs enfants de faire de la poésie et de ne pas travailler réellement. Et à partir de là, eh bien, il a eu une carrière d'abord de poète, avec toute une série d'amis florentins. Les poètes du Dolce Stil Novo, le doux style neuf, qui ont inventé une nouvelle forme poétique avec Guido Cavalcanti, etc. Puis il s'est intéressé à la politique. Il est rentré, il est même devenu prieur de Florence, qui était la plus haute charge administrative. Et il s'est un peu, peut-être aussi perdu dans cette politique, dans une période de guerre civile à Florence, entre Guelfes et Gibelins, etc. Donc il y a de multiples personnages chez Dante. Il y a un poète, il y a un homme politique, il a été ambassadeur, enfin il a vraiment une carrière politique qui est assez importante. Il y a une volonté philosophique, il y a toute une série de personnalités qui peuvent paraître un petit peu antagonistes, et qui pourtant coexistent dans ce jeu. Et peut-être qu'à un moment, fallait-il écrire ce voyage pour essayer de renouer toutes les dimensions de la subjectivité, pour essayer de dire, eh bien, qui suis-je finalement ?
Mais vous avez oublié un des événements les plus importants de la vie de Dante, c'est la rencontre en 1274 de Béatrice.
Alors évidemment, Béatrice, c'est à la fois un point originel de Dante, c'est-à-dire que...
Bah, il avait 9 ans, c'est ça, quand il
avait
rencontre.
9 ans. Donc, il avait 9 ans, voilà, donc c'est véritablement une fascination première, donc c'est la figure de la femme, c'est la figure de l'amour parfait qui va être même transfigurée tout au long de sa vie, puisque l'amour de Béatrice va passer d'un amour originel qui est un amour courtois, donc des premières œuvres, un amour poétique, un amour risqué pour l'époque, puisque l'amour courtois, c'est l'amour terrestre, donc pour un chrétien, etc., ce n'est pas forcément l'amour le plus facile à assumer. Et puis ensuite, ça va être transfiguré en un amour qui va aller jusqu'à un amour divin, on va passer par un amour de la philosophie. Enfin, la dame chez Dante va être la figure qu'il va chanter, qu'il va réfléchir tout au long de sa vie, et Béatrice est la figure de cette dame. Alors, une Béatrice réelle qui est morte assez tôt.
À 24 ans, je crois.
À 24 ans, Dante a eu une autre femme, dont il ne parle jamais, et qui il a eu des enfants. Donc, c'est un petit peu... Béatrice est la figure qui a marqué toute son écriture. Donc, Dante et Béatrice, c'est l'histoire d'un Dante écrivain, d'un Dante qui construit toute sa personnalité, qui lèguera à la postérité. Et qui est un petit peu à l'écart du Dante réel, qui a eu beaucoup d'histoires amoureuses, visiblement, on les devine, parce que Béatrice, d'ailleurs, lui refuse son salut, parce que, disons qu'il semblerait avoir mauvaise réputation, il l'aurait trahi avec d'autres dames, alors il tente de se justifier.
Qu'il met en scène sa rencontre avec Béatrice au sein de la Divine Comédie, qui, disons-le, cet itinéraire, donc il part de cette forêt obscure pour s'aventurer dans l'enfer, arrive au purgatoire, puis au paradis. Son guide, très tôt, dès l'enfer, c'est Virgile, poète oui. Romain qui lisait beaucoup. Et ensuite, Virgile va passer le relais à Béatrice pour l'entrée au paradis, puisque Virgile n'a pas accès au paradis, il était païen.
Oui, alors Virgile ne peut pas aller au paradis, donc il le laissera à la fin du purgatoire, mais en réalité, c'est Béatrice qui l'appelle. C'est Béatrice qui envoie Virgile pour venir chercher Dante, et c'est elle qui va être le moyen de remonter véritablement vers la chose la plus haute, c'est-à-dire la plus haute signification du divin, de la transformation de soi. Mais il l'avait promis, c'était une promesse. C'est-à-dire qu'à la fin de La Vita Nova, qui est une de ses premières œuvres, La Vie Nouvelle, où il raconte justement tous les épisodes de son enfance, la découverte de Béatrice qui va illuminer sa vie. Et à la fin, il se rend compte que son chant n'est pas encore assez haut pour chanter dignement la dame. Et il termine La Vita Nova en disant, eh bien, qu'il reviendra, mais pour la chanter plus dignement. Et donc, la Divine Comédie, c'est ce retour. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il n'a pas encore les moyens, à l'époque, de pouvoir accéder à la plénitude du dire de Béatrice. Et ça sera la Divine Comédie qui pourra être l'œuvre permettant de chanter la dame avec la dignité qui sied à une figure de cette qualité.
La question se pose de savoir pourquoi ce texte s'appelle Divine. On peut comprendre un peu, comédie, on ne voit pas du tout le lien. Alors voici l'explication de Giorgio Agamben.
La culture italienne naît sous les signes de la comédie. On n'a jamais réfléchi assez pourquoi Dante a appelé son poème comédie, comédie. Là, il a fait un geste qui a marqué toute la culture italienne. C'est un geste profondément anti-tragique. C'est un geste qui affirme l'impossibilité de la tragédie dans l'époque moderne. Et bon, après, on a ajouté l'adjectif divine, là, justement, parce que on ne savait pas que faire, de quoi faire de cette comédie. Ça ne semblait pas assez noble qu'une tradition commence sous le signe comique. Dante, c'est un auteur comique dans ce sens.
Ainsi mon âme qui fuyait encore se retourna pour regarder le pas qui ne laissa jamais personne en vie. On va essayer de rester en vie quand même grâce à vous Didier Ottavini qui est notre guide aujourd'hui, notre Virgile, à travers cette Divine Comédie de Dante. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h18 et c'est le premier temps de notre série sur ce texte incroyable qu'on va arpenter en votre compagnie toute cette semaine. Quand Giorgio Agamben dit que Dante, bah oui c'est un auteur comique, il est difficile de le croire parce que poétique, sublime, tout ce qu'on veut, mais comique.
Alors c'est vrai que le sens de comique pour nous est quelque chose qui peut paraître un petit peu étrange appliqué à Dante. Mais alors il faut vraiment s'interroger. Alors d'abord pourquoi ils appellent ça une comédie ? Ouais. Une comédie c'est parce que ça se finit bien. Donc ça c'est une première chose et effectivement Agamben a raison en disant que c'est une écriture contre la tragédie. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin parce que c'est vrai que comique peut prêter à confusion mais on peut se demander un petit peu que signifie la tragédie. Si on regarde ce que c'est que la tragédie grecque, on a l'impression que le tragique, c'est ce qui nous arrive, c'est-à-dire c'est une suite d'événements terribles. Mais c'est pas ça le tragique pour les Grecs. La caractéristique de la tragédie grecque, c'est avant tout que le sujet de la tragédie est un sujet divisé. C'est un sujet qui est scindé entre des problèmes qui sont antagonistes. On peut penser à Œdipe. Le sujet n'arrive pas à faire son unité. Or, Dante, il fait son unité. C'est-à-dire que tout le trajet, c'est un retour vers l'un. C'est un retour vers le principe. Et donc, c'est une comédie parce que on se retrouve aussi soi-même. Alors évidemment, c'est un sens du mot comédie qui n'est plus du tout le sens actuel. Mais c'est la joie de se retrouver soi-même et de ne plus être dans la division qui conduit à la destruction complète du héros tragique.
Donc il faut entendre comique vraiment au sens de anti-tragique.
C'est vraiment de l'anti-tragédie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui récupère à la fois toute la tragédie grecque, toutes ces thématiques les plus fondamentales, mais qui en même temps les réarticule au niveau d'un espoir fondamental. Parce que c'est ça la signification que Dante veut donner à son œuvre. C'est une œuvre d'espérance. Et donc, une comédie, quoi de mieux que pour manifester l'espoir, plutôt qu'une tragédie. C'est-à-dire que la tragédie, on a l'impression... La tragédie, c'est le destin, le fatum, il y a quelque chose qui nous dépasse. Dans la comédie, on peut prendre en charge son propre destin, on peut justement jouer avec son destin et pouvoir le construire. Et on n'est plus du tout dans le tragique grec et de cette destinée qui nous accable.
C'est ce sens de comédie que reprendra Balzac bien plus tard avec la comédie humaine. Il s'inspire directement
de Dante. Il s'inspire directement de Dante, effectivement. Donc, on a...
C'est le sens le plus romanesque du terme, en fait.
Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que comique risque de nous orienter sur une mauvaise voie. C'est-à-dire que ce n'est pas un auteur comique, c'est plutôt un auteur d'espérance.
D'ailleurs, si on reprend le texte qui a ouvert cette émission, le tout début donc de l'Enfer, et qu'on lit précisément ce qu'on y voit, alors la peur se teint un peu tranquille, qui dans le lac du cœur m'avait duré la nuit que je passais si plein de peine, et comme celui qui, hors d'haleine, sorti de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse et regarde. On a ici, c'est pour aller dans votre sens, Didier Ottaviani, le point de départ d'un récit qui est d'abord ce que vous appelez une transformation de soi. J'ai rappelé qu'on était au début du XIVe siècle avec ce texte. Est-ce qu'on peut parler déjà de récit initiatique ?
Alors, oui, dans la mesure où c'est un récit dans lequel le personnage va essayer de s'éprouver lui-même. Le protagoniste sort de quelque chose de terrible. Et donc, ça paraît un peu étrange, parce qu'on a l'impression que c'est l'enfer qui va être terrible. Mais il y a quelque chose de peut-être plus terrible avant. C'est cette situation de perdition totale dans laquelle se trouve Dante, et le moment où il accoste à un rivage, même si ce rivage va se révéler un rivage plein d'atrocités, puisqu'on va descendre progressivement le cône de l'enfer, alors grâce à Virgile, qui va évidemment permettre d'éviter les chausse-trappes et tous les dangers. Mais c'est déjà le début du voyage. C'est-à-dire que ce qu'il y a peut-être de plus terrible, c'est de ne pas faire le voyage. C'est de ne pas faire la quête, c'est de ne pas aller en chemin vers soi. C'est ça qui fait que l'on vit uniquement dans la peur, c'est rester dans un état dans lequel on est dans la peur, on est dans l'angoisse, et on ne fait rien pour en sortir. Donc ce cheminement, c'est déjà une action qui forcément est positive.
Comme une quête d'apaisement.
Voilà, quelque chose qui va devoir être une traversée de la douleur, parce que la quête d'apaisement, eh bien, va supposer une propédeutique, un début qui soit la traversée de la douleur.
Vous parlez même de pèlerinage spirituel dans votre livre, Dante ou le pèlerin spirituel.
Oui, alors il s'appelle lui-même l'esprit pèlerin. C'est un qualificatif qu'on retrouve à plusieurs reprises. Donc il y a un pèlerinage, alors qui peut prendre un sens religieux, mais qui finalement peut avoir un sens aussi beaucoup plus laïque, dans une période d'ailleurs où le sens de laïque d'ailleurs est double, puisque à l'époque, le laïc qui n'a pas de religion n'est pas véritablement le problème, mais se pose un très gros problème avec les laïcs à l'époque, qui sont les gens qui n'ont pas de formation universitaire. C'est-à-dire, c'est ceux qui, parce que c'est le cléricus qui va avoir une formation universitaire, donc le laïc, c'est celui qui n'a pas reçu d'enseignement universitaire, et Dante n'a pas fait l'université. Donc, qui est-il pour se permettre, alors pour de la poésie, ce n'est pas très grave, mais il écrira aussi de la philosophie, et tout le problème, c'est qu'il se considère comme un laïc. Alors évidemment, le sens a complètement changé à la manière dont on peut l'entendre aussi aujourd'hui, mais on se rend compte que Dante parle au-delà de la question religieuse. C'est vraiment quelque chose qui est cette espèce de pèlerinage vers soi. Alors, pèlerin peut indiquer effectivement une quête plus haute, quelque chose qui va m'amener à dépasser ce que je suis de manière, on pourrait dire, purement donnée, pour accéder à un état de ma personnalité beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé, une véritable métamorphose de moi-même.
Qui n'implique pas forcément la présence de Dieu.
Qui n'implique pas forcément la présence de Dieu.
On se pose la question, hein, c'est quand même le but, on va au paradis, on rencontre une forme de divinité, mais on peut avoir une lecture plus justement laïque de cette ascension.
Oui, dans la mesure où on va chercher un principe, on va chercher une vérité qui serait un absolu. Cette vérité absolue, pour un chrétien, elle prend le nom de Dieu, mais pour quelqu'un d'autre, elle peut prendre...
Le nom de soi.
Le nom de soi, par exemple.
Le haut sommeil fut rompu dans ma tête par un éclat de foudre, et je repris mes sens comme un homme qu'on réveille de force. Je tournais autour de moi, l'œil reposé, debout, et je regardais fixement pour connaître le lieu où j'étais transporté. En vérité, je me trouvais sur le rebord de la vallée d'abîmes douloureuses qui accueille un fracas de plaintes infinies. Elle était noire, profonde et embrumée. En fixant mon regard jusqu'au fond, je ne pouvais rien y discerner. « Descendons à présent dans le monde aveugle », commença le poète en pâlissant. « Je serai le premier, toi, le second. Et moi, qui avais remarqué sa pâleur, je dis « Comment viendrais-je si tu crains, toi qui toujours réconfortes mes doutes ?» Et lui « C'est la souffrance des ombres qui sont ici, qui peint sur mon visage cette pitié que tu prends pour la peur. Allons, le chemin nous pousse. » C'est ainsi qu'il entra et qu'il me fit entrer dans le premier cercle qui entoure l'abîme. Et là, ce que j'entendis, il n'était pas de pleurs, seulement des soupirs qui faisaient trembler l'air éternel. Cela venait de douleurs sans torture subies par ces foules qui étaient grandes, d'enfants, de femmes et d'hommes. Mon bon maître me dit « Tu ne demandes pas quels sont les esprits que tu vois ? Or je veux que tu saches, avant d'aller plus loin, qu'ils furent sans péché. Et s'ils ont des mérites, cela ne suffit pas sans le baptême qui est le seuil de la foi que tu as. Et s'ils vécurent avant la loi chrétienne, ils n'adorèrent pas Dieu comme il convient. Je suis moi-même un de ceux-là. Pour un tel manque, et non pour d'autres crimes, nous sommes perdus. Et notre unique peine est que, sans espoir, nous vivons en désir. » Je ferai comme lui qui pleure et qui parle. Vous écoutez Rossini sur France Culture à la suite de la lecture d'un extrait de la Divine Comédie de Dante qui nous accompagne toute cette semaine. Et aujourd'hui, le philosophe Didier Ottaviani est avec nous en studio pour commenter ce texte. Nous sommes en enfer, hein, disons-le, Didier Ottaviani, c'était le chant 4 dont je viens de lire le début. Et on voit qu'on commence à nouveau avec un sommeil, c'est-à-dire que le récit est sans cesse ponctué par un sommeil, alors on ne sait pas si c'est un rêve, mais un sommeil et des réveils ici. Le haut sommeil fut rompu dans ma tête par un éclat de foudre et je repris mes sens comme un homme qu'on réveille de force. Ce qui est très bizarre comme mise en scène dramatique, c'est que là on se demande s'il n'y a pas comme des ellipses en fait, comme si ce n'était pas l'inconscient qui ressurgissait de tout ça.
Alors c'est un petit peu ça effectivement, dans la mesure où on ne fait pas un voyage de manière totalement consciente. Un tel voyage, on ne le fait pas de manière totalement consciente. Et il y a effectivement cet ensemble de rencontres qui sont quand même extraordinaires, où on est toujours à la limite entre le rêve, le symbolique, et il ne veut pas présenter ce voyage comme quelque chose qui soit une sorte de récit de voyage qui pourrait apparaître réel, ou quelque chose que l'on pourrait croire être purement terre à terre, entre guillemets, même si on est déjà sous terre, avec ce premier cercle où arrive...
Donc là, on est au premier cercle de l'enfer. Alors, il y en a 9. Hein.
Oui, alors qui vont aller en gravité. Donc le premier cercle, pardon, c'est le moins grave, c'est le cercle des limbes. Donc, ils n'ont pas commis de péché. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant qu'ils soient en enfer, mais simplement, ils n'ont pas eu le baptême. Donc, ils sont nécessairement... ils n'ont pas été sauvés. Et donc, on va retrouver là tous les philosophes, tous les anciens, tous les...
Homère, Horace, Ovide, entre autres.
Oui, c'est un tableau de toute la culture antique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en avait d'autres qui étaient dans ces limbes avant le Christ. Il y avait Moïse, il y avait Abraham, mais ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Alors, c'est un passage que on a un petit peu perdu dans notre culture, tout simplement parce qu'on ne lit plus un évangile que l'on lisait encore à l'époque, qui est ce qu'on appelle l'évangile de Nicodème, classé dans les évangiles apocryphes, et dans lequel on raconte quelque chose qu'on a oublié, c'est-à-dire, il est dit Jésus descendit aux enfers et ressuscita le troisième jour. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant 3 jours ? Eh bien, pendant 3 jours, il descend aux enfers, Et il va chercher Moïse, Abraham, etc. pour les remonter au paradis, puisqu'il n'y a personne en fait au paradis. Et donc, de ce fait, eh bien, on se rend compte. Alors, l'évangile de Nicodème raconte deux morts qui voient descendre Jésus. C'est pour cette raison que quand Dante arrive en enfer, la porte de l'enfer est cassée. Et il dit comment ça se fait. Et Virgile lui explique que quelqu'un de beaucoup plus puissant est venu parce que Jésus, il y a tout un combat. Il se bat contre les démons. Enfin, il y a toute une épopée de la lutte de Jésus contre les démons, etc. pour réussir à sortir les justes de l'Ancien Testament et les remonter au paradis. Alors, ce qu'on voit encore dans l'iconographie médiévale, ça arrive souvent que dans des représentations, on ait toute l'histoire de la Bible et qu'on ait ces trois cases où on voit Jésus se battant contre des démons et qui deviennent du coup inexplicables. Puisque ces trois cases, quand il y en a trois, eh bien sont l'évangile de Nicodème. Donc tout le monde était dans les limbes, pour les justes en tout cas, avant le Christ.
C'est ce qui frappe dans ce texte-là, hein, et surtout ce qui frappe aussi, c'est que si on fait attention aux sonorités, parce que Dante s'adresse à tous nos sens, hein, quand on lit la Divine Comédie, on peut le lire comme un voyage de l'ombre vers la lumière, tellement il y a un dégradé des nuances infinies entre l'ombre et la lumière. On peut le lire aussi comme un voyage sonore. Et ici, ce qu'il nous est dit, c'est que dans ce premier cercle de l'enfer, il n'était pas de pleurs, seulement des soupirs qui faisaient trembler l'air éternel. En deux phrases ici, le portrait, disons simplement de l'écoute, est brossé. Et on imagine des soupirs, des personnes qui déambulent en soupirant. C'est-à-dire que c'est le premier degré de la souffrance en réalité.
Oui, c'est le désir qui ne peut pas être satisfait. C'est ça le soupir, c'est-à-dire qu'il y a un désir de la divinité. Mais malheureusement, on est bloqué dans les limbes par l'absence de la grâce et l'absence du baptême. Alors, ce qui évidemment est là est un schéma chrétien évidemment classique, mais qui est aussi la difficulté de cette antiquité qui peut-être a aperçu, parce que c'est toute la thématique des chrétiens, c'est-à-dire que les antiques ont vu le principe, ils ont vu quelque chose de la vérité, et ils n'ont peut-être pas réussi à aller jusqu'au bout, et c'est aux âges qui suivent de parfaire un petit peu leur enseignement, d'où le fait que finalement on ne fait que relire les antiques et poursuivre ce qu'eux avaient commencé et qu'ils n'ont malheureusement pas atteint, et ils restent soupirants de cette perfection.
Dante invente quelque chose avec la Divine Comédie, pas simplement une forme mi-romanesque, mi-poétique, mais aussi une langue. Dante est quelqu'un qui va inventer des mots, beaucoup, qui a beaucoup recours à des néologismes et un certain rythme qui avant lui n'existait pas, un rythme d'écriture. Écoutez la traductrice de Dante, Jacqueline Risset, en parler, c'était en 2010, au micro de Laure Adler, hors champ sur France Culture.
Quand j'ai commencé à travailler sur Dante, je pensais qu'on ne pouvait pas le traduire. Parce que tout d'un coup, j'ai eu la sensation que c'était un poète extrêmement fort, extrêmement important, et qu'il ne suffisait pas de voir les images de Gustave Doré pour approcher ce monde. Et que le purgatoire, l'enfer, le paradis, c'est des choses qui regardent le Moyen-Âge, en fait. Et moi, je ne voyais pas comment on pouvait s'approcher de cela de façon sérieuse, disons. Et donc, je me suis dit, il faut le traduire, mais à ce moment-là, j'ai commencé à le traduire et je me suis aperçue que c'était plus facile que je ne croyais. C'est-à-dire, si on était imprégné du rythme de Dante, qui est un rythme extraordinaire, le rythme de Dante, et qui n'est pas la métrique, parce que le maître de Dante, c'est des endécasyllabes qui sont déjà extraordinaires par rapport à la prosodie française qui est très, très symétrique. Mais là, je me suis aperçue que c'était un rythme tout à fait inventé, extraordinairement libre. Et que là, ce qui me servait, c'était la prosodie actuelle, la prosodie de la poésie du XXe siècle, et pas du tout la prosodie classique.
Exemple par le texte, voici un extrait du 18e chant du Purgatoire. Dante traverse la 4e corniche du Purgatoire, où se trouvent les paresseux. Écoutez cette définition de la connaissance comme un acte d'amour.
L'âme, qui est créée prompte à aimer, se meut vers tout objet plaisant aussitôt que par le plaisir elle se réveille en acte. Votre faculté appréhensive tire l'intention d'un être vrai et la déploie à l'intérieur de vous, si bien que l'âme se tourne pour lui faire face. Et si, se retournant, elle se penche vers l'objet, se pencher est un amour naturel qui par le plaisir nouveau s'enlace en vous. Puis, comme le feu se meut vers le haut à cause de sa forme, née pour monter là où elle dure plus longtemps dans sa matière. De même, l'âme est prise, entre en désir, qui est un mouvement spirituel, et ne se repose plus jusqu'à ce qu'elle jouisse de la chose aimée.
On respire, Didier Ottaviani, on est sorti de l'enfer, on allait un peu plus vite que Dante lui-même, hein, mais les besoins de l'émission nous obligent à marcher d'un pas plus rapide. Au purgatoire, on peut jouir de la chose aimée, c'est ce qui est dit, pourtant c'est pas encore le paradis. Un mot avant de commenter ce texte, mais justement on peut le lire d'abord comme une illustration des propos de Jacqueline Risset. Dante invente un rythme particulier.
Alors Dante crée une poétique très spécifique, puisqu'il va être le fondateur de la Terza Rima, qui est une architecture poétique très particulière, faisant qu'on a des strophes de trois vers, dans lesquelles le vers du milieu, en fait, rime avec la strophe suivante. Donc ça lie les trois strophes de manière extrêmement solide, et il y a un dernier vers isolé dans chaque chant, qui est un petit peu comme la clé de voûte à partir de laquelle tout le chant se réarticule. Et d'autre part, c'est des endécaps syllabiques, donc des vers de 11 syllabes, qui en italien sont assez vont être assez courants, mais qui en français effectivement n'est pas véritablement la forme métrique la plus usitée. Donc
même pour la traduction, c'est très difficile de garder ces
contraintes. Et pour la traduction, c'est très compliqué. C'est-à-dire que alors Jacqueline Risset dit que c'est moins difficile que prévu, mais c'était malheureusement une excellente traductrice.
Sa traduction claire, la trouve chez
Voilà, sa traduction véritablement est un véritable respect de l'œuvre et un véritable travail que je pense qui a dû être vraiment très difficile, même si elle le présente sous l'angle de la facilité, parce que elle arrive justement à restituer une certaine rythmique, à restituer une beauté et à donner au lecteur la possibilité d'avoir un accès à ce texte qui, il est vrai, évidemment, en italien, a une résonance très particulière. C'est-à-dire que la lecture en italien, bien évidemment, c'est tout le problème de la poésie. C'est-à-dire, peut-on la traduire ? Donc, Jacqueline Risset a réussi à faire quelque chose que peu avaient réussi, enfin pratiquement personne avant elle n'avait réussi à réaliser aussi bien.
Mais ce que vous dites sur ce rythme propre à Dante qui a pour conséquence d'avoir une dernière phrase isolée qui ne rime pas avec les précédentes, c'est ce qu'on trouve à la fin de chaque chant quasiment. Et quand on le lit aujourd'hui avec nos lecteurs, avec nos yeux de lecteurs contemporains, on le voit, c'est un peu le même fonctionnement que les séries télévisées où la dernière minute, il va se passer quelque chose qui fait qu'on a envie de regarder l'épisode suivant. C'est exactement ce qui se passe. Il y a toujours une espèce de couperet qui tombe à la fin du chant qui annonce le chant suivant. C'est un ressort dramatique qui marche très très bien.
Alors parce que c'est une épopée. Alors le dernier vers rime quand même avec la dernière
en
strophe
en italien, oui.
En italien, mais alors pour nous évidemment ça disparaît complètement au niveau de la structure rythmique, mais il y a véritablement chez Dante le souci de faire quelque chose qui est un certain suspense en quelque sorte.
C'est ça.
C'est quelque chose de il y a un souci de construire une histoire. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est aussi une véritable narration, une narration de soi, mais un récit dans lequel il y a des événements parce qu'il se passe plein de choses. Il y a beaucoup d'épisodes et chaque chant est un épisode à part entière dans lequel il se passe quelque chose. Il y a une dimension véritablement littéraire, mais au sens où on a
comme un feuilleton.
C'est un feuilleton, c'est-à-dire qu'on suit ce personnage et chaque fois il lui arrive des choses nouvelles. Il y a toute une série d'aventures. C'est pour ça que je parlais de l'Odyssée au tout début, c'est-à-dire que c'est comme Ulysse qui chaque fois voudrait bien retourner voir Pénélope, mais il débarque dans une nouvelle île et il lui arrive une nouvelle histoire. Et donc dans l'aventure de l'Odyssée, il y a une multitude de petites aventures qui adviennent. Donc dans l'aventure de la Divine Comédie, on remonte vers Dieu, mais cette remontée va avoir toute une série d'épisodes avec une foule extraordinaire de personnages, puisque toute la culture gréco-latine et même arabe est présente à l'intérieur de la Divine Comédie.
D'ailleurs, un mot sur le texte qu'on a entendu avant d'aller jusqu'au paradis et de rencontrer, non pas Pénélope, mais Béatrice, puisque c'est l'équivalent pour Dante de la Pénélope d'Ulysse. Le texte qu'on a entendu parlait de l'âme, comparait l'amour comme un feu qui se meut vers le haut. Il y était beaucoup question de désir, de jouissance, et en réalité, ce qui est dit dans ce texte, ce qui est présent, c'est une théorie de la connaissance plus que de l'amour.
Alors, c'est Dante fait de sa théorie de la connaissance une théorie de l'amour. Pour lui, connaître est un acte amoureux, donc il est dans une tradition qui est aussi augustinienne sur ce plan-là, mais il s'inspire énormément de essentiellement de l'aristotélisme arabe, qui est arrivé à partir du XIIe siècle, qui était traduit en latin, et qui fait que Aristote, en fait, on a l'impression que sous prétexte qu'Aristote était un grec, forcément le Moyen-Âge qui vient après l'a connu, mais en réalité non, parce que les textes grecs se sont perdus, et ont été, à la chute de l'Empire hellénistique, ont été traduits à Bagdad en arabe, et donc pendant des siècles, le monde latin n'a connu que très peu de textes d'Aristote et de la culture antique. Et tout cela revient dans des grandes vagues de traductions latines à partir du XIIe siècle, ce qui est une espèce de ce qu'on appelait la renaissance du XIIe siècle, c'est-à-dire que une révolution à la fois scientifique, philosophique, etc. apparaît, dans lesquelles, eh bien, en réalité, c'est le monde arabe qui revient, puisque tous ces traités sont des traités qui ont été étudiés depuis des siècles par les Arabes. Donc les mathématiques, l'astronomie, etc. ont été fortement transformés. Et tout ça, Dante en hérite, et il y a donc un fond, comme tous les auteurs d'ailleurs de du XIIIe siècle et qui suivent, c'est-à-dire il y a un fond véritablement interculturel majeur qui est un passage de culture, à la fois la culture grecque, la culture latine, la culture arabe, la culture juive, toutes les cultures fusionnent dans une seule œuvre. C'est ça qui m'a intéressé véritablement au début. Et cette théorie de la connaissance, elle est d'origine aristotélicienne, mais on la trouve aussi, avec évidemment des variations, chez un persan comme Avicenne, mais aussi chez des penseurs juifs. Donc on a évidemment des latins aussi, donc on a une espèce de syncrétisme philosophique, qui est assez intéressant aujourd'hui où les cultures, on a l'impression qu'elles se divisent, que il y aurait une difficulté à faire de l'interculturalisme, du multiculturalisme, ou en réalité, on se rend compte qu'à l'époque, il y a une culture assez homogène, c'est-à-dire que toutes les cultures fusionnent dans une seule, où il est difficile de savoir qui donne quoi.
Il faut qu'on arrive à Béatrice, elle nous attend, elle nous invite au paradis. Alors avant d'entendre le début du premier chant du paradis, dites-nous peut-être comment Dante en est-il arrivé là, comment est-il sorti du purgatoire?
Alors, il arrive au sommet du purgatoire, il est au paradis terrestre, puisque le paradis terrestre est au sommet de cette montagne, qu'il localise au-delà des colonnes d'Hercule. Et là, il ne sait pas, il s'endort, c'est un passage un petit peu, il y a une espèce de saut, on ne sait pas trop comment il va accéder à la dimension paradisiaque, parce que le passage de l'enfer au purgatoire, là, est décrit, alors puisqu'il va grimper sur Satan, qui bouge pas beaucoup, et puis à un moment, il va se trouver inversé, en fait, tout simplement, il a passé le centre de la Terre, et il se met à grimper au purgatoire. Donc là, le passage est assez romancé.
C'est un corps à corps, oui.
C'est un corps à corps avec... parce qu'il s'agrippe au poil de Satan. Enfin, il y a toute une...
Une matérialité corporelle.
Une matérialité du mal réel, là. Par contre, le paradis est un petit peu... c'est un petit peu un saut. On ne sait pas trop exactement comment il se retrouve là, puisqu'il est dans l'Empyrée, donc ce n'est plus un ciel véritablement matériel pour lui, donc on est dans quelque chose qui est au-delà du terrestre, cette fois. Donc ce n'est plus un voyage normal qui est possible pour arriver là.
Beaucoup est permis là, qui ne l'est pas ici à nos forces, par la vertu du lieu fait pour être séjour à notre espèce humaine. Je n'en supportais pas longtemps l'éclat, ni si peu que je ne l'ai vu crépiter d'étincelles, comme fer bouillonnant qui sort du feu. Soudain, le jour sembla s'être ajouté au jour, comme si le Tout-Puissant avait orné le ciel d'un deuxième soleil. Béatrice était toute avec ses yeux fixés dans les roues éternelles. Et moi, en elle, je fixais mes regards, détachés de plus haut dans sa contemplation. Je me fis en moi-même pareil à Glaucus, quand il goûta l'herbe qui le fit dans la mer parent des dieux. outrepasser l'humain ne se peut signifier par des mots, que l'exemple suffise à ceux à qui la grâce réserve l'expérience. Si je n'étais qu'âme, plus récemment créée, amour qui gouverne le ciel, tu le sais, toi qui m'élevas par ta lumière. Quand la roue que tu animes éternellement dans le désir de toi me rendit attentif, par l'harmonie que tu tempères et répartis, un si grand pan de ciel me parut allumé par le feu du soleil, que pluie ou fleuve ne composa jamais si vaste lac. La nouveauté du son et la grande lumière m'allumèrent un désir de leur cause jamais senti avec pareille acuité. D'où elle, qui voyait en moi, autant que moi, pour apaiser mon esprit agité, avant que je demande, ouvrit la bouche et dit « Tu t'alourdis toi-même avec tes idées fausses, et ne peux voir chose que tu verrais si tu les secouais. Tu n'es pas sur terre comme tu crois, mais la foudre, en fuyant son séjour, court moins vite que toi, qui y retourne. » Ce voyage au paradis, c'est France Culture qui vous l'offre sur les chemins de la philosophie. Nous sommes en compagnie de Dante, de Béatrice et de Didier Ottaviani qui va nous expliquer le texte que je viens de lire. Soudain, le jour sembla s'être ajouté au jour, comme si le Tout-Puissant avait orné le ciel d'un deuxième soleil. Nous sommes en pleine lumière et le mot qui retentit dans l'extrait que je viens de lire, donc au tout début du paradis, c'est cette expression plutôt « outrepasser l'humain », trasumanar en italien. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire trasumanar, qui est un néologisme qui n'existe pas en italien, et qui peut avoir deux sens. D'une part, il y a le sens que l'on peut donner de la manière la plus classique, c'est-à-dire c'est le fait qu'on dépasse l'humain et donc on va passer dans une attitude mystique. On peut penser par exemple à l'extase mystique qui nous sort de l'humanité pour nous faire atteindre un niveau de contemplation absolue du divin qui n'est pas possible évidemment avec un corps humain puisqu'elle est réservée, c'est la thématique de la vision béatifique, elle est réservée aux bienheureux, au paradis, qui n'ont plus un corps humain mais qui ont un corps glorieux fait de pure lumière. Et qui donc peut supporter la vision du principe, cette lumière qui n'a rien à voir, c'est comme un deuxième soleil, comme il le dit, et donc qui est très forte. Mais il peut y avoir aussi un autre sens, puisque si on se demande que fait Dante, on sait très bien qu'il n'a pas été au paradis réellement. Donc, outrepasser l'humain, eh bien c'est quoi ? C'est réussir à se dépasser soi-même. Et finalement, se dépasser soi-même, eh bien, c'est faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire écrire la Divine Comédie. Il le dit depuis le début de son œuvre, il ne sait pas s'il est capable de faire tout cela. Il ne sait pas parce qu'il dit, alors il a une phrase, il dit « Je ne suis ni aîné ni Paul ». Donc Saint Paul qui a été ravi par la grâce divine au paradis, donc on lui a montré toutes les merveilles et puis on l'a ramené sur terre, et ce qu'il raconte dans la seconde épître aux Corinthiens, et il ne peut pas dire ce qu'il a vu parce que la parole est insuffisante pour décrire ses réalités. Donc comment est-ce que Dante peut réussir à décrire de telles réalités ? Parce qu'il, pour quelqu'un qui, il dit, le trasumanar ne peut pas se dire...
Outrepasser l'humain ne se peut signifier par des mots.
Ben oui, mais pourtant il écrit beaucoup.
14 000 vers ou plus. Hein.
Pour dire quelque chose qu'il ne peut pas dire.
Oui, donc, c'est l'histoire de toute l'écriture.
On ben voilà, c'est-à-dire que la possibilité d'outrepasser, c'est réussir justement à dépasser cette langue, à la transformer, à la métamorphoser pour enfin réussir à dire ce qu'il ne pouvait pas dire avant. C'est-à-dire, c'est se construire soi-même. Et donc dépasser un petit peu cet humain de la première poésie, etc., pour atteindre un niveau poétique qui, cette fois-ci, est pratiquement surhumain, qui est une véritable réalisation de soi, une transformation de l'écriture dans laquelle il va y avoir aussi une sorte de création de la langue italienne, puisqu'il va y avoir énormément de néologismes dans le paradis. En fait, le texte de la Divine Comédie en italien se fluidifie à mesure qu'on monte. En enfer, on a des choses très dures, des mots qui sont durs, des significations, beaucoup de significations grecques ou des mots qui ne veulent rien dire.
Dante
aussi
parle de mots hirsutes et rêches.
Alors, il y a des mots rêches et hirsutes, c'est-à-dire que pour dire des choses dures, il faut accepter de prendre des mots qui sont des mots rêches, ou des mots hirsutes, plutôt que les mots bien peignés.
Et lisses,
voilà. Donc les mots hirsutes, parfois, sont nécessaires. Mais le but, c'est de nettoyer la langue, justement, de ces mots hirsutes. Et après, les mots rêches et hirsutes de l'enfer, eh bien, le purgatoire est déjà beaucoup plus fluide. Quant au paradis, c'est carrément une nouvelle langue. On le sent dans la langue, oui, parce qu'il y a beaucoup de néologismes, il y a beaucoup plus de fluidité, et les mots deviennent bien peignés, pour reprendre son expression. Non pas que le reste soit mal écrit, mais simplement, ce qu'il veut montrer, c'est qu'il forge une nouvelle langue. Je veux dire, Dante va être un petit peu le père de la langue italienne pour ça, c'est-à-dire qu'il reste dans la tradition qui est celle des troubadours, qui sont les trouvères, mais c'est parce que c'est les trouveurs de la langue. Il connaît très bien les troubadours provençaux. D'ailleurs, il va même faire quelques rimes en langue provençale pour montrer qu'il sait parler et rimer en provençal. Et la recherche des troubadours, c'est créer une langue. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de métaphores sur le fait de limer les mots, de les améliorer, de créer des mots. C'est ça, véritablement, l'acte poétique, c'est créer une langue. Et c'est ça que va faire Dante. En plus, pour lui, ça a une signification politique majeure, parce que si l'on veut faire l'unité de l'Italie, il faudra faire l'unité de la langue, parce que les parlers italiens sont tous différents. Et la quête de l'unité de la langue, ce qu'il appelle le vulgaire illustre, la langue vulgaire, donc la langue vernaculaire, mais le vulgaire illustre, c'est élever la langue vernaculaire à sa perfection. Et c'est ce qu'il tente de faire, qu'il fait, on peut le dire, dans la Divine Comédie.
La Divine Comédie est un récit des métamorphoses. Le texte connaît lui-même de nombreuses métamorphoses jusqu'à aujourd'hui. En voici un exemple.
Sing a happy song, 'cause spring does not last long. A flower blooms and then it's gone. Summer follows fast. Make hay while it lasts.
C'est avec le groupe The Divine Comedy que nous nous quittons, Didier Ottaviani. Un grand merci d'être venu nous parler de Dante aujourd'hui.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, La philosophie de la lumière chez Dante, du Convivio, du banquet à la Divine Comédie en classique Garnier, puis Dante, l'esprit pèlerin qu'on trouve au Seuil, en point Seuil même, en poche, sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h53. On vous retrouve demain pour la suite de cette semaine sur la Divine Comédie, mais tout de suite, il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, ravie de vous retrouver. Bonjour à tous.
Eh bien pareil. Alors votre actualité ce matin en lien avec la philo, quelle est-elle?
C'est la belle vie. Oh. Attention, pas le bonheur ou la bonne vie, c'est des notions qu'on rencontre plus fréquemment en philosophie, mais la belle vie, vous savez, cette vie faite d'amour, de gloire et de beauté, cette vie quand on dit « elle est pas belle, la vie ». Bref, c'est cette vie intense qui éclate à travers les plaisirs simples ou les expériences limites, l'ivresse éphémère ou la passion déchirante. Cette vie, pour ces raisons-là, qui est si critiquée par la morale philosophique, des raisons sans raison, des raisons irrationnelles, et qui soulève cette question « pourquoi donc cette belle vie ?» ne pourrait-elle pas être viable ?
Sachons aimer, boire et chanter, c'est notre raison d'exister. Il faut dans la vie un brin de folie, heureux se celui qui chaque jour se grise.
Aimer, boire et chanter, voici ce que l'on peut entendre par La Belle Vie, c'est ce que suggère la valse de Strauss que l'on entend. Et puis aussi Patrick Farreau, dès les premières pages de son excellent essai sur cette question de La Belle Vie. Et que l'on pourrait donc formuler ainsi, pourquoi aimer, boire et chanter ne pourrait-il donc pas être viable? Pourquoi ne pourrait-il pas durer? Et même s'il ne dure pas, pourquoi ne pas quand même les rechercher et en faire une vie, sa vie? Autrement dit, pourquoi faudrait-il donc chercher le bonheur durable, prudent, ascétique, tant prôné par les philosophes, plutôt qu'une belle vie, esthétique, c'est-à-dire vive, extrême, faite de sensations, sans obligation morale et aussi bien compatible avec le cynisme et l'égoïsme qu'avec la vie collective et démocratique?
Il faut boire pour vous croire, les aveux les plus bons sont souvent illusoires. Les serments ne sont que des mots.
Ce sont finalement des questions classiques, des objections classiques, que l'on retrouve dans les textes philosophiques eux-mêmes depuis Platon et qui doivent se reposer aujourd'hui, car la belle vie, c'est ce à quoi poussent les sociétés libérales. C'était par exemple le sens de ce slogan de mai 68, comme jouir sans entrave, et c'est aussi ce que révèlent désormais les recherches neuroscientifiques à propos du cerveau, de sa quête du plaisir à travers le sexe, les jeux et les drogues, et c'est aussi surtout ce que nous montrent les récits singuliers, la littérature et ses héros avides de gloire depuis l'Antiquité, et le cinéma. Le cinéma, justement, c'est la matière première de ces questions vitales. 140 films sont cités ici, des séries aussi. Alors il y a Aimer, boire et chanter d'Alain René qui reprend son titre de la valse de Strauss. Il y a aussi Fanny et Alexandre de Bergman. Il y a aussi Sex and the City et House of Cards. Et puis il y a aussi Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick.
Bonjour, lieutenant. Alors, mon brave,
mon général.
Prêt à tuer beaucoup d'Allemands?
Oui, mon général.
Ah, je vois qu'on nettoie son fusil. Hein, et ben, c'est ce qu'il faut faire. Le soldat n'a pas de meilleur ami. Veillez bien sur lui et il veillera toujours sur vous.
Oui, mon général.
Alors, bon, ben, bonne chance, mon vieux. Continuez.
Oui, mon général.
Et oui, quoi de mieux qu'un film pour signifier cette tension existentielle et même organique entre le bonheur et la belle vie. Et la tension même de la belle vie qui, peut-être elle-même, nous intoxique. Quoi de mieux que ces films et récits intimes pour ainsi transformer ce problème de la belle vie, pour ne plus demander finalement pourquoi ne pas la rechercher à tout prix, mais qu'est-ce qui est au fond recherché et comment le rechercher? Tout est peut-être une question de dose, comme pour les drogues, de dosage et d'équilibre. Patrick Farreau nous parle ainsi d'une éthique de belle vie, mais tout est aussi une question de finalité, car finalement c'est autre chose que l'on cherche. On est en vie, on voudrait frôler la mort, on s'ennuie, on aimerait sortir de sa routine, on veut en fait s'aventurer hors de soi-même. Et si donc la belle vie, c'était en fait cette quête folle de trouver autre chose même que la vie?
Moi j'ai une bonne objection à la belle vie. C'est que dans une vie, on ne ferait que boire, aimer et chanter, il n'y aurait aucune place pour la créativité. Dante n'aurait jamais écrit la Divine Comédie, on n'aurait pas besoin d'écrire, il n'y aurait plus d'œuvre d'art.
Alors moi j'ai une autre objection, c'est toutes les chansons qui ont été écrites sous drogue et grâce à l'alcool.
Qui elle-même, alors ça dépend, ça peut aussi valider la belle vie. En tout cas, Patrick Farreau qui avait écrit sur la drogue, me semble-t-il.
Exactement, hein, ouais. Et c'est vraiment un ouvrage passionnant qui est paru chez Vrin dans la collection La Vie Morale et ça s'appelle La Belle Vie Dorée sur Tranche, c'est une référence à une chanson de Brassens.
Mais bon, vive la belle vie quand même. Merci Géraldine. Et merci à Maude Markiewicz, David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Marianne Chasseur, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jean-Christophe Francis qui a préparé cette semaine, Victoria Asper qui était à la prise de son aujourd'hui, Georges Classe à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur la Divine Comédie de Dante. Demain, ce sera une mauvaise rencontre en enfer, en compagnie de Bruno Pinchard, président de la Société Dantesque. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie et rendez-vous sur nos comptes Twitter et Facebook où nous attendons vos remarques et commentaires. Je précise, si vous ne le savez pas, que cette émission est réécoutable en ligne, mais aussi podcastable, téléchargeable, afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, restez à l'écoute sur France Culture à midi, ce sera l'heure de retrouver la grande table de Lydia Gesbert. Et à 11h, Culture Monde par Florian Delorme.